Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la Premier League en Angleterre et on jouait hier le 1er janvier 2020. 9 matchs au programme de la 21e journée. Éric Chorin, Radio France Internationale.
Arsenal s'est fait du bien en remportant le choc de la 21e journée du championnat anglais ce soir. 2-0 face à Manchester United. Nicolas Pepe, l'Ivoirien, a inscrit le premier but des Gunners après seulement 8 minutes. Leicester reste deuxième de Premier League après sa large victoire à Newcastle 3-0. Manchester City suit à une longueur après avoir battu Everton 2-1. Ce jeudi, Liverpool, le leader invaincu en 19 journées, reçoit Sheffield United.
Et puis les JO de Paris 2024, où en sont les préparations à 4 ans des Jeux? Réponse avec Christophe Diremzian pour Radio France Internationale et se focus sur les hébergements et les entraînements.
Près de 400 comités nationaux olympiques et paralympiques n'est pas une mince affaire. 39 d'entre eux, issus des 5 continents, sont donc venus prendre les premiers contacts à Paris début juillet pour faire part de leurs besoins et de leurs attentes en matière d'hébergement, mais aussi d'entraînement, avec des exigences différentes, comme l'explique Sophie Laurent, la directrice des relations internationales de Paris 2024.
Les gros sénos ont déjà fait des repérages. Les Américains, traditionnellement, aiment avoir une base de vie. Donc eux sont plutôt à la recherche d'un endroit très grand où ils puissent accueillir toute la délégation, répartir par exemple leurs uniformes. Les Canadiens, eux, étaient intéressés aussi pour non pas trouver une base logistique, mais plutôt des sites d'entraînement. De notre côté, on va avoir des thématiques, par exemple, autour du développement durable. Certains CNO, notamment les CNO canadiens, sont exemplaires et certaines de ces pratiques peuvent être intéressantes pour nous.
C'est donc dans une démarche de co-construction avec les pays que le COJO entend enrichir son projet de lieu de préparation et de vie pour les athlètes. Il publiera d'ailleurs cet été un guide où seront recensés tous les centres de préparation aux Jeux proposés aux équipes étrangères.
Et maintenant, Éric Chorin revient sur la CAN masculine de handball qui se déroulera du 16 au 26 janvier prochain à Tunis, en Tunisie. Et la sélection du Congo-Brazzaville menée par le Français Guy Petit-Girard.
En handball, les Congolais ont quitté Brazzaville et c'est sur place que les Diables Rouges vont préparer la compétition pour s'acclimater à des conditions météo beaucoup plus hivernales et pour enfin jouer des matchs de préparation dignes de ce nom face au Cameroun, à la Libye et à la Tunisie, championne d'Afrique en titre. L'occasion de parfaire les schémas de jeu travaillés avec les joueurs locaux et les 3 joueurs venus du Maroc pour renforcer l'équipe, mais cette fois en version match. Le sélectionneur du Congo Brazzaville, Guy Petit-Girard.
On a eu toute une première phase où on a travaillé avec les joueurs en place sur le Congo et puis 3 joueurs sont venus nous rejoindre par la suite. On essaie de mettre en place tout ce qui est travail relationnel, les types de défense qu'on allait utiliser, comment on attaquait certains types de défense. Donc ça se met en place petit à petit. Ça nécessite du temps d'appropriation de la part des joueurs. On avance doucement, il y a encore des erreurs, mais il y a toujours des erreurs. Le problème c'est que pour l'instant on n'a pas pu étalonner ça par rapport à une opposition solide dans le cadre d'un match avec du stress, avec de la pression, avec de l'intensité. Donc ça va être la suite du travail maintenant. Après, il faut éprouver ça dans la compétition et c'est une autre histoire.
Le Congo jouera la CAN dans le groupe D face à l'Algérie, le Maroc et la Zambie.
Un mot sur les rétros de 2019 avec la Coupe du Monde de rugby remportée par l'Afrique du Sud de Noé Ocheboudin, Radio France International.
La ferveur, l'espoir, l'unité, c'est tout cela qu'ont ramené les Springboks l'espace de quelques semaines en Afrique du Sud. Il a été de nouveau permis de rêver arc-en-ciel pour des millions de Sud-Africains, fiers de leur boxe, du meilleur joueur du monde, Peter Steph Dutoit, de la révélation de l'année, Cheslin Kolbe, et bien sûr, du capitaine emblématique, Siya Kolisi. Alors on retient évidemment l'image de Kolisi levant les bras au ciel avec le trophée Webb Ellis, mais on en oublie que peu voyaient les Sud-Africains remporter cette Coupe du Monde. Ils faisaient certes figure de favoris, mais loin, très loin, derrière les All Blacks et le 15 de la Rose, des Anglais qu'ils ont d'ailleurs battu sèchement en finale 32-12. L'année a été quasiment parfaite avant le Mondial où les Box sont arrivés invaincus et auréolés de leur premier Four Nations en 10 ans. Les hommes de Rassie Erasmus auront finalement essuyé une seule défaite, sans incidence, lors de l'ouverture du Mondial face aux All Blacks néo-zélandais. Une défaite pour 9 succès donc. Ce parcours quasiment sans faute a rendu fier tout un pays. Il a aussi placé les Springboks tout en haut du classement World Rugby en tant que meilleure nation du monde. Le plus important est pourtant à aller chercher hors du terrain, où les box et leurs nouvelles icônes, comme Sia Colissi ou encore Makazole Mapimpi, ont réussi à faire un petit pas de plus vers l'unité du pays.
Autre rétro maintenant sur la judokate française, Clarisse Agbenenyou, qui a remporté en août 2019 un quatrième titre de championne du monde. C'était à Tokyo. Christophe Dirindian, Radio France Internationale.
11 minutes interminables dans une salle assourdissante, largement acquise à la cause de son adversaire, le combat de Clarisse Agbenenyou restera assurément dans les annales des championnats du monde. Face à elle, Miku Tashiro, toujours sur le podium depuis 2014, mais jamais sacré. Sa précédente tentative, un an auparavant, s'était déjà soldée par une défaite en finale face à la Rennaise, mais la prolongation n'avait pas duré. Cette fois, Agbenenyou peine à trouver la faille, mais fidèle à son tempérament de bagarreuse, c'est à l'usure et sur un mouvement d'épaule au sol qu'elle fera craquer la japonaise. À 27 ans, elle devient la française la plus titrée au niveau mondial devant trois illustres aînés, Brigitte Dédier, Gevry Zeman et Lucie Décosse. Une place de choix au tableau d'honneur du judo national qui ne la satisfera sûrement pas tant qu'elle n'aura pas obtenu le Graal olympique. Aux Jeux de Rio, elle n'était repartie qu'avec la médaille d'argent, frustrée par un duel mal négocié, achevé en moins de 2 minutes sur une immobilisation. Trop impatiente, elle avait laissé passer sa chance. Dans 7 mois, elle n'aspire désormais qu'à prendre une revanche qui serait encore plus savoureuse dans le pays roi de la discipline.
Voilà pour le magazine des sports de ce jeudi. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.